Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
23:46. Le commentaire de
Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
Emmanuel, qu'est-ce que tu as pensé de la grande messe d'hier?
C'est l'espoir au compte-gouttes.
Oui, mais c'est l'espoir.
Ben oui, parce qu'il y a quand même 5 régions qui tournent au orange, donc ils peuvent aller au restaurant. C'est pas peu dire quand même, c'est important pour ces gens-là qui vont pouvoir aller au spectacle, qui vont pouvoir avoir un ressemblant de vie. Ben, imagine un couvre-feu à 20h30, à 21h30.
Ben oui.
Mais il y a beaucoup, puis il y a la promesse qu'il va y avoir un plan de déconfinement pour les sports qui s'en vient. Alors, une autre petite lueur d'espoir. Mais il y a la plus grosse promesse de M. Legault qu'il a faite depuis longtemps. Celle de parler d'autre chose.
Oui.
Et moi, c'est-à-dire... non, mais ça m'a tellement... Ça m'a surpris parce qu'il a quand même été très catégorique, hein, en disant, puis là, je le cite, « Vous allez voir, ça va complètement changer le portrait de la situation au Québec, la vaccination. Et on travaille très fort, nous, pour relancer une nouvelle économie. Je vous promets un boom économique d'ici la fin 2021.
Ah ben,
et ça, c'est énorme quand même.
Ben oui, mais c'est sûr que quand ça va être terminé, là, écoute, on va se précipiter, là, on va sortir, on va dépenser, puis ça va repartir la machine.
Oui, mais quand ça va arriver, et moi j'ai vu là-dedans une façon pour M. Legault de laisser miroiter que ça va aller plus vite qu'on pense. Parce qu'en ce moment, on est tous fixés sur un calendrier de vaccination assez lent qui nous mène à fin septembre. Ça veut dire un été assez quinquant, hein? Où il faut continuer à être encore plus prudent que l'été dernier à cause des variants et tout le reste. Mais quand on regarde les chiffres, et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que la directrice de la santé publique en Colombie-Britannique a dit aux gens de la Colombie-Britannique que d'ici la mi-juillet, tout le monde aurait sa première dose de vaccin.
Mi-juillet?
Pourquoi? Mi-juillet. Mais dans le fond, c'est mathématique. C'est quand tu regardes les livraisons prévues de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ça c'est sans compter Johnson & Johnson, il y a à peu près 6 millions de doses qui vont rentrer au Québec entre avril et juin. Mais ça, c'est assez pour donner une dose à tout le monde, là.
Mais il y en a un qui va gagner son pari, c'est Justin.
Mais oui.
Vraiment, là.
Mais est-ce qu'il va gagner son pari? On verra. Moi, je pense que Mais si le gouvernement réussit à faire respecter ses contrats, ce qui a changé tout ce calcul-là tout d'un coup, c'est vrai que Québec avait lancé le bal, hein, en espaçant la première dose à 90 jours, en espaçant les deux doses. Tu te rappelleras, on en avait parlé, ça suscitait beaucoup d'inquiétudes. Puis finalement, c'est un pari qui a été validé par la recherche. Et là, forte de ça, l'hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, elle a dit, ben moi, j'hésitant à 4 mois mes deux doses. Parce que je veux vacciner tout le monde d'ici la mi-juillet. Et là, le Comité national d'immunisation, qui sont comme les experts, là, les immunologues et tout ça, qui conseillent le gouvernement fédéral, on dit, savez-vous, c'est ça la stratégie à faire. La stratégie à faire, c'est d'ouvrir la machine, de vacciner tout le monde le plus vite possible, et on donnera la deuxième dose après. Donc, ça vient donner la possibilité à M. Trudeau que rendu mi-mai, début juin, que là... Il est capable de dire aux Canadiens, regardez, ça marche. Il y a les 2/3 de la population qui a eu sa première dose déjà. Alors, l'effet des livraisons qui semble être en voie de rentrer dans un calendrier raisonnable et négocié et fiable, plus cette surprise que personne n'avait prévue, de dire qu'on peut aller jusqu'à 4 mois entre les deux doses au lieu de 3 semaines. Mais là, ça vient complètement changer la donne. C'est ce qui permet à M. Legault de dire aux gens, vous n'avez pas long à tenir le coup, ça s'en vient. Puis tu remarqueras qu'il est assez habile de ne pas la faire, lui, la promesse qu'il va vacciner tout le monde d'ici la mi-juillet. Parce qu'il y a un gros problème de logistique là-dedans. Il faudrait vacciner 4 fois plus par jour qu'on le fait en ce moment. Alors, on n'est pas rendu là. Mais ça permet à M. Legault de le mettre dans la fenêtre, l'idée que ça va aller mieux, plus vite, pour qu'on soit patient et qu'on endure jusqu'à Pâques. Et ça donne les moyens à M. Trudeau de leur regarder sa fenêtre électorale et de dire, ah, elle s'ouvre pour de vrai pour moi.
Mais tout à fait. Non, c'est sûr, c'est pour lui, c'est une excellente nouvelle. Et c'est drôle parce que je parlais à une députée du Bloc québécois et je lui disais, vous savez, M. Trudeau, il va relever son défi. Finalement, il va remporter son pari. On va tous être vaccinés à la fin de l'été. Et elle a dit, oui, malheureusement.
Mais le gros pari que va remporter M. Trudeau aussi, ça, je l'ai vu hier, c'est une phrase à garder en archive pour la prochaine année. Madame Freeland, qui est la vice-première ministre et ministre des Finances, était dans le point de presse de M. Trudeau hier où on avait annoncé le désinvestissement pour l'innovation, le développement de vaccins un an en retard, faut-il le rappeler? Trêve de plaisanterie. Il y a tout un débat sur le fait que Ottawa a dépensé beaucoup trop. Là. Notre collègue Mario Dumont a écrit là-dessus dans le Journal de Montréal. Il y a un rapport de Statistique Canada publié lundi à l'effet qu'en moyenne, les familles qui ont reçu la PCU, sur la durée de la PCU, ont eu 2 500 $ de plus que les revenus perdus.
Ben oui.
Alors là, tout le monde dit, le gouvernement a déliré totalement. Et Madame Freeland, au lieu de répondre avec ça, tu sais, en ton de ministre des Finances, là, je comprends les critiques, mais nous avions l'importance de s'assurer que l'argent se rende à bon port et ça, c'est une prise de risque qui valait la peine pour sauver la dignité, l'économie canadienne, blablabla. Elle s'est moquée de cette critique-là. Tu sais, sur un ton un peu vindicatif, partisan. Et ça, tu vois qu'eux autres, ils ont compris une chose, c'est qu'avec ça maintenant, ils ont l'argument ultime. Ça met leur opposition en boîte parce que ça vient lier l'argumentaire de M. Trudeau. S'il y a une phrase qu'il répète à toutes ses conférences de presse depuis la mi-mars dernier, c'est « Ne vous en faites pas, nous serons là pour vous. »
Tout à fait. Et écoute, je dois te bousculer parce qu'on est en temps sur notre horaire, mais rapidement, là, les commentateurs politiques sont tous très critiques là, envers le Parti conservateur. Est-ce que Erin O'Toole mérite ces critiques-là?
Oui. Premièrement, il faut le dire, c'est pas facile d'être chef politique en temps de pandémie, là, chef de l'opposition, là. OK, c'est hyper périlleux. Mais fais une comparaison, Parti conservateur, Parti libéral au Québec. Chef peu connu, c'est dans le fond des sondages, ça va pas bien. Madame Anglade a quand même trouvé un ton. On amène des propositions pour les changements à l'école, on demande une enquête publique en rappelant que c'est pas partisan, mais que ça prend des réponses à des questions. C'est très précis, c'est très méticuleux, il y a un argumentaire. Qu'est-ce qu'on entend du Parti conservateur? Le vaccin, c'est un échec, vous êtes nuls, c'est pas bon. Alors là, tu peux plus plaider cet argumentaire une fois que les choses vont changer. Faut jeter la quarantaine à l'hôtel parce qu'il y a des problèmes. Super brillant quand tu l'as réclamé pendant des semaines. Là, pour essayer de traire la vache du débat sur les vaccins jusqu'à la lie, on veut politiser ce débat-là sur est-ce qu'il faut donner le vaccin d'AstraZeneca aux personnes de 65 ans et plus, en traînant devant des comités parlementaires les scientifiques qui sont en faveur du 65 ans et plus et ceux qui sont contre, puis les mettre en opposition. Comment politiser un débat qui ne devrait pas l'être? Et comment alimenter la crainte des gens sur le vaccin? Et puis, c'est bien dire que le gouvernement est indigne d'avoir garoché de l'argent par les fenêtres. C'est quoi l'alternative? Qu'est-ce que ça aurait fait de mieux? Alors, on se retrouve à la veille d'une élection avec un parti conservateur qui a été très habile pour critiquer le gouvernement, mais que monsieur, madame, tout le monde dans la rue demande lui qu'est-ce qu'il propose le parti conservateur pour que ça aille mieux dans la pandémie?
On ne sait pas.
Personne
non, c'est un parti qui se cherche totalement. Tu as tout à fait raison. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonne journée.
Au revoir.
Merci. Alors, mon cher Benoît.
Hey.
Comment ça va?
Je sais pas si tu as vu ça hein, dans le journal aujourd'hui. La liste de vaccination, les performances T'as-tu vu ça?
Non.
C'est Israël, pour le taux de vaccination dans la population, Israël est à 96%. Faut pas oublier qu'ils ont payé 40% de plus le chaque vaccin. Hein. Mais ils ont piqué, puis ils ont vacciné, puis ils ont réglé le problème. Émirats arabes unis à 84%. La Serbie, qui est une puissance mondiale, on le sait, est à 22%. Le Chili, qui est une autre puissance mondiale économique, était presque à 20%. Le Canada est à combien? 5,5%.
5,5%
de taux de vaccination. Fait qu'on félicite le gouvernement Trudeau pour sa compétence, sa performance. François-Philippe Champagne est venu me dire qu'il était très fier du travail accompli puis qu'il avait travaillé fort. Puis moi, j'avais...
Tu un party pooper.
Tu te souviens de mon prof de mécanique à Polyjeunesse, à Fabreville, qui s'appelait Séverin Lévesque. Moi, j'ai pris une année off au lieu de lâcher l'école, je suis allé étudier en mécanique. C'est le directeur d'école qui m'a dit ça. J'étais allé à l'école anglaise, fait que j'avais un paquet d'avance sur un paquet de cours, fait que j'ai fait un an en mécanique. Et c'est vrai, l'évêque qui se promenait avec un bleu, puis juste un linge, puis nous autres, on fouillait dans les moteurs, puis on avait de l'huile partout. Puis j'ai dit, comment se fait que toi, tu te promènes, tu t'aides toutes les équipes sur tous les chars dans le garage, il y avait un garage à la polyvalente, puis t'as juste un linge, t'as jamais main sale. Il dit, c'est pas parce que... quand t'es main sale, c'est pas parce que tu travailles fort, c'est parce que tu travailles mal. Tu sais? Fait que ça, vraiment, là, je devais avoir 15-16 ans, puis je l'ai toujours retenu. Tu sais, c'est pas parce que Trudeau est en sueur, puis il dit, on travaille nuit tous les jours, qu'il travaille bien. Peut-être parce qu'il travaille mal. C'est le résultat final qui compte, là.
Donc, toi, mettons, si ça va mal dans les médias, à un moment donné, tu peux ouvrir un garage?
Ben non. Parce que c'était en 1977, 76, je sais pas trop.
C'était des buggy avec des chevaux.
Non, il n'y avait pas d'électronique. C'était des vrais chars mécaniques. C'était de la vraie mécanique.
Okay.
Aujourd'hui, ça te prend un cours d'électronique. Fait qu'à oublier ça, je vais payer un choc.
De quoi tu nous parles?
Oh, de rien. De quoi je parle? J'ai décidé d'inviter Jean-Charles à midi en entrevue pour parler...
Bien sûr. Priceless.
Non, il va faire ça dans sa chronique. Pour parler des gars qui devraient... T'as vu François Legault hier, là, il est sorti.
Oui.
Puis il a dit, là, les gestes barbares, les hommes doivent se parler. Nous autres, quand on envoie un se comporter en cabochon, tu sais, on a l'obligation d'intervenir. Et là, je veux parler à Jean-Charles pour savoir, tu sais, les Alouettes, le Canadien de Montréal, ils ont des joueurs qui sont aimés des hommes, qui sont admirés des hommes. Si ces joueurs-là prenaient la parole, juste un petit moment, si Georges Saint-Pierre prenait la parole, disait, t'es pas un homme si tu bonne femme, t'es pas un homme si tu tues une femme, consulte, ça c'est correct, il y a rien d'humiliant là-dedans, il me semble qu'on avancerait en société. Fait que on va lancer cette idée-là à midi, et tantôt j'ai le maire de Bromont qui est rouge, qui est orange, qui est rouge, qui est orange. on va voir de quelle couleur.
Il est entre les deux.
Il est entre les deux.
Tu traverses la rue, tu tombes dans l'autre zone,
ouais,
c'est ça?
C'est ça, il est tard. Mais là, à une heure de route, Richard, c'est tentant d'aller à Bromont.
Ben là, puis c'est beau, Bromont.
Ben oui, c'est beau.
On est-tu droit?
Ben oui. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de guérite, il n'y a pas de mine antipersonnelle.
Non, mais on nous conseille de rester à la maison.
Ils nous conseillaient de ne pas voyager. Ils sont allés pareil dans le sud.
Vas-tu aller au restaurant à Bromont, toi?
Jamais.
Ben oui.
Jamais. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Mais
c'est connu.
Non, je peux pas faire ça. On nous dit de pas faire ça. Faut arrêter de chercher des failles. Faut arrêter de chercher les grandes certitudes. Faut comprendre le contexte de la pandémie.
Parce que t'es connu, tu le fais pas, sinon tu iras en tabarnak.
Non, parce que je suis cheap. Je trouve que ça coûte cher aller au restaurant. Puis à 11h, on va parler des infirmières qui ont reçu une facture du CIUS. Parce que elles ont pas droit à une prime pandémie. Là, je me demandais, est-ce que les gestionnaires des CIUS on doit une prime de pandémie? Je sais pas. On pose la question tantôt.
Aujourd'hui, j'avais des remords ce matin en me réveillant.
Non.
Parce que aujourd'hui, dans ma chronique, je parle de la fin des francs-tireurs.
Oui,
les dernières années, on devait faire approuver nos sujets.
Et là,
je me suis dit, j'aurais peut-être dû demander à Benoît s'il
non,
me donne la permission d'écrire ça.
Tu te souviens, je voulais inviter Pierre-Hugues Boisvenu, puis la direction de Télé-Québec avait refusé, t'es trop à droite, trop aussi. Je dis, OK, on va inviter Jaggy Singh. Tu te souviens, le militant là, woke de gauche qui a provoqué des...
Puis là, ils ont dit oui.
Ils ont dit oui.
Ben oui.
Je voulais juste rappeler ça. Non, quand j'ai lu ça,
les dernières années, là, il fallait tout faire approuver. Ouais. On l'a vu, nous autres, le changement. En 23 ans, là, on a vu qu'on avait une carte blanche au début, puis plus ça allait, plus ça se serrait.
Carte blanche avec confiance, là.
Oui.
On faisait pas n'importe quelle niaiserie. Mais tu te souviens du meeting qu'on avait eu? Tu sais, j'avais demandé un meeting, je disais, là, moi, j'avais, je sais pas, 53, 54 ans à l'époque. Je dis, là, c'est pas vrai que vous allez approuver le sujet. On a une feuille de route, là, on sait quoi faire, nous autres. On sait c'est quoi la diffamation, on sait c'est quoi la liberté d'expression, on connaît la différence. Alors, faites-nous confiance.
Ben oui.
Ah, c'est pas ça, c'est parce qu'on veut pas qu'elle ait... C'est vrai, tu sais, ils voulaient pas qu'elle ait les mêmes invités dans toutes les émissions, on comprend ça. Parce que nous autres, c'est vrai qu'on a beaucoup d'invités que les émissions de recettes recevaient. Et là, ça a l'air que Christian Bégin doit faire approuver toutes les recettes qu'il fait.
La tarte aux pommes, c'est trop québécois, ça.
Quelle pomme? Quelle pomme!
Trop drôle. Alors, merci pour la recherche. Carl Marchand, Maude Boutet à la console réalisation, Jean-François Roy et Sébastien Laperrière, le gars de Trois-Rivières.
Pas de sa faute. Arrête.
Ben, il est né là, qu'est-ce que je te dis?
Il est pas né là, c'est un choix.
Ah, il est né à Québec.
Non, mais c'est beau.
Il s'est rapproché de Montréal.
C'est cool, Trois-Rivières. Ça fait partie. J'y pense
moi,
des fois.
J'aime ça.
J'y pense de déménager à Trois-Rivières ou à Québec. Ou
j'aime ça. C'est rock'n'roll, Trois-Rivières.
Ah ouais.
C'est une ville de party.
Ouais.
C'est vraiment le fun. On se reparle demain à 8 h, puis on écoute Benoît.